Jive le pod hors série Game Boy. Bienvenue à vous qui nous écoutez et bonjour à vous autour de cette table.
Bonjour.
Qui
bonjour.
Êtes en pleine forme comme moi.
Bonjour.
Bonjour Christophe.
Moi je suis en forme, j'ai juste super chaud.
Moi je suis épuisé, mais je pense que c'est à cause de la chaleur. Christophe.
Ouais, j'ai mal dormi, alors j'ai envie de dormir.
Ouais, tout à l'heure t'es arrivé en disant là je pourrais dormir. Mmh. Effectivement.
Et là encore maintenant.
Donc on vous le dit direct comme ça, soyez pas étonnés, il y aura peut-être des blancs si vous entendez ronfler. On verra, mais on
sachant qu'on enregistre ça après les vacances, quoi.
C'est ce que j'allais dire. On va vous parler donc de notre hors-série Game Boy qui est en kiosque tout le mois d'août et le mois de septembre. Là, on enregistre, on est le 14 août. Mm-hmm. On revient de 2 semaines de vacances et on est épuisé. Donc non, ça, c'est compliqué un peu.
Hein, en pleine forme.
C'est vrai, c'est
ouais,
faux.
J'ai retrouvé Internet.
Ah, c'est vrai.
Après une semaine sans Internet... dire que ça y est, là, c'est reparti, quoi.
Ouais. Bah écoute, tant mieux, ça en fait déjà 1 sur 3.
Je vais...
Tu vas carry, c'est ouais. Toi qui vas carry. Non mais écoutez, il fait aussi très très chaud, voilà, et on n'est pas habitués, on est des gens du dedans, nous. Hein. Moi, je sais que ça a tendance à m'abrutir un petit peu. Par contre, nous allons directement commencer, comme ça, ça sera fait un peu pendant qu'on a encore quelques neurones. On va commencer par nos remerciements.
Évidemment. Les remerciements pourquoi
Kevin, ça c'est une bonne question. Peut-être vous ne le savez pas, mais depuis le mois de juin, nous vous proposons via la plateforme Ulule une nouvelle formule d'abonnement à notre magazine. C'est un nouveau service que Ulule propose. Avant, on s'en servait pour précommander des magazines comme par exemple ce hors-série Game Boy dont nous allons vous parler, mais aussi maintenant à un système d'abonnement mensuel pour vous abonner au magazine.
Courant,
voilà.
Numéroté.
Et écoutez, ça fait 2 mois que c'est en place. Nous, on est très satisfaits, en tout cas, du service qu'Ulule propose, même si c'est encore un service qui est tout neuf et qui va probablement encore s'améliorer. Et a priori, vous êtes de plus en plus nombreux à souscrire à ces formules. Donc, vous avez l'air satisfaits aussi. Et parmi ces formules d'abonnement, il y a la formule J'enrichis pour les personnes qui nous donnent 15 euros par mois. Et parmi, dans les contributions, il y a les remerciements dans le podcast. Eh bien, c'est quand ? C'est maintenant. Christophe, veux-tu, avec ta belle voix,
bonjour,
remercier tous nos gens richis ?
Eh bien, avec plaisir. Je vais donc remercier Blinksurf, Bourriot, Olivier.
Faut qu'on fasse une blague sur temps en temps sur quelqu'un. Là, j'avais envie de faire une blague sur Blinksurf. Ça fait très années 90, quoi.
Tu vois, entre californiens.
Ouais, c'est ça, ouais. Blinksurf.
Blink 182.
Ouais, et puis, ouais, tu vois, on sent qu'il s'habille en. il s'habille en Quicksilver, cet homme, enfin, cette personne, en tout cas. Voilà, pardon.
Donc, Chichounet, merci. Gothico 2, Hirobir, La Mogne, Laurent Guéry, Montreuilois, Moreau Fred, Mister Burp, Olou. Papa Podcast, Quentin Lamami et Zadisic.
Merci les gens richis. Et vous savez quoi ? Nous, on avait mis un petit palier un peu marrant. D'ailleurs,
taquin.
Un peu taquin, on l'a appelé Jean Tourloupe. Parce qu'il y a une petite blague, bah, vous ne devinerez jamais. Eh bien, nous avons un Jean Tourloupe. Et nous allons donc le remercier. Moon, merci à toi. Merci, tu es notre premier et peut-être le seul à jamais Jean Tourloupe. Peut-être qu'en écoutant ce message, tu te rendras compte que, eh oui, c'est tous les mois qu'il faut payer. Et peut-être que tu vas dire, oh merde, en écoutant ce podcast.
Il faut payer et puis il y a un engagement, quoi.
Et sachant que dans ton palier, tu vas être convoqué de force à la rédac à chaque fois que nous aurons besoin de porter des cartons. D'ailleurs, nous allons à la poste juste à la fin de l'enregistrement de ce podcast. Donc, ouais. Moon,
et puis, il y a 300 magazines chez moi.
Hein, c'est vrai.
Qui doivent à un moment arriver à la rédac.
Donc écoute, Moon, tiens-toi prêt.
Ouais, à tiens-toi tout moment, prêt, un hélicoptère arrive.
Directement chez toi. Mais merci, merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous tous.
C'est notre soleil.
Ah oui.
Vous l'avez ou pas?
Parce que Moon.
Voilà.
Ah, ouais. Super. Ah, je
allez,
pas, moi.
Merci.
Tu peux aller faire une sieste, Christophe. J'y vais du coup hors série 15. C'est notre 15e hors série cette année. Donc notre hors série estivale consacrée à la Game Boy. Au Game Boy au pluriel. À la Game Boy. Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Pocket, Game Boy Advance.
SP.
Game Boy SP.
Enfin, Advance SP.
Hey, tout ça, d'ailleurs, on voit bien sur la couve, on commence par parler de la couverture.
Allez.
Oh, c'est bon. Grut, oui, évidemment que c'est Grut.
C'est Grut, hein. On sait que c'est le genre de challenge qu'il aime bien. En fait, la première, on avait déjà abordé plusieurs machines au sein d'un seul et même hors-série. Alors, quand on avait fait avec la NES et la Master System, on avait fait des coupes différentes. Mais quand on avait fait les micros, des objets autrement plus laids que des Game Boy, on avait déjà fait appel à Grut qui avait dit « Ok, challenge accepted » et qui avait fait un truc super en plus.
Surtout à l'époque, je me souviens très bien de lui avoir dit « Si tu veux, tu peux faire une illustration vectorielle, quelque chose d'un peu épuré. » Un truc un peu simple, et il nous avait dit non, je vais tout modéliser en 3D. Ce qu'il avait fait d'ailleurs.
Ouais, fou.
Et là, il a recommencé.
Il a recommencé, donc avec des objets peut-être un peu plus, on va dire, télégéniques ou magasinégéniques.
Oui, c'est ça. Couvable, couvesque, je sais pas comment on dit.
Et bon, après, il y avait, enfin, sans remettre en cause son travail, il y avait pas de consignes particulières, et on voulait mettre en valeur les machines, sachant qu'on avait fait, alors dans des temps immémoriaux, JV numéro 8,
film
6. Déjà, oui, bah, je le vois là-bas, pas vous, derrière votre téléphone. On avait déjà fait une couve Game Boy où on avait mis la console, la brique, plein pot. Là, on voulait quand même représenter aussi l'évolution des machines, donc... Mais c'est tout ce qu'on lui avait dit.
Oui, c'est ça, on est vraiment arrivé en disant, nous, il faut qu'il y ait des Game Boy.
Voilà, et pour la mise en scène, c'est lui qui a choisi ce côté un peu profilé.
Ouais.
Et le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'on a longtemps tergiversé, hésité à l'idée d'habiller les écrans.
Ouais, en fait, mettre quelque chose dans l'écran des consoles.
C'est ça, mais c'était à la fin... C'était assez compliqué, soit ça devenait répétitif, soit c'était pas forcément hyper convaincant.
Ouais.
Et puis, on avait pensé à mettre
des petits gens vidéo
en pixels, ou un peu représentatifs aussi des jeux des différentes époques. Mais c'était beaucoup de boulot pour quelque chose qui allait sans doute alourdir un peu l'ensemble du visuel. Donc finalement, on a renoncé. Et puis voilà, il a mis un beau rose.
Ouais, évidemment, il a mis du rose. Moi, j'ai dit oui tout de suite. Mais oui, non, en fait, c'est tout simplement les couleurs primaires si chères à Bruno Vandelli. Mais le cyan, le jaune, le fond rose, enfin, moi, j'aime beaucoup le côté...
Et le gris, la quatrième.
Et le gris de la Game Boy d'origine. Mais c'est vrai que ça revient sur... Justement, tu parlais du JV6, où on avait vachement joué sur le côté pop de la Game Boy. Ouais. Et justement, dans les pages intérieures, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un...
Oui. Il avait même été question à un moment que ce soit
la couve, mais le
warolien, côté,
une illustration un peu warolienne de la Game Boy. Bah là, avec les couleurs primaires comme ça, on reste un peu dans ce côté pop qui au final va bien à l'objet de pop culture que la Game Boy est devenue. Donc oui, non, je suis aussi très contente de cette couve.
Et avant de parler un peu plus du contenu du mag, moi je voulais juste dire, rappeler pourquoi on était parti d'un point de vue éditorial sur ça. Donc bon, tous les étés on fait une machine. Ou une série, ou une rivalité, enfin peu importe. Là, en fait, ce qui avait été compliqué, c'est qu'il avait fallu définir vraiment le cadre qui allait nous intéresser. C'est-à-dire que la Game Boy toute seule, c'était une chose. Parler de toutes les portables de Nintendo, c'était peut-être trop. Parler de toutes les consoles portables, encore plus. Enfin, ça avait été compliqué de définir vraiment l'angle. Donc, on finit par décider de partir donc, de la première Game Boy, donc 89, jusqu'à la Game Boy Advance et la SP, donc 2000.
3-4.
Ouais.
De couvrir comme ça 15 ans, environ, bon, on va dire 5 consoles différentes, même si certaines sont plus des modèles slim ou des trucs comme ça. Mais donc ça représente quand même un gros morceau. C'était la première fois qu'on couvrait une telle période aussi dans un hors-série de cette série-là. Mais bah, je trouve que l'équilibre était bon et qu'on a réussi finalement, à, même en matière de jeu, à couvrir un spectre quand même assez large. Et puis bon, on s'est laissé un peu de champ libre pour, je sais pas, bon, un jour, genre génération DSPSP,
bah, ou ouais,
des
voilà,
trucs comme ça, quoi.
Parce que c'est vrai que... Bah,
j'étais génération Game Gear.
Oui, oh, bah, il sera un peu plus rapide, celui-là. Là. Il sera un peu plus rapide. Mais oui, oui, là, on s'est arrêté juste avant la naissance de la DS. Mm-hmm. Et c'est vrai que rien que ça, de la DS à la Switch, c'est pareil. Ça pourrait déjà être un gros morceau aussi, mm-hmm, derrière.
Ce qui nous fait chier avec la DS, c'est que...
Oui.
C'est des doubles captures,
oui.
Et ça, t'aimes pas trop.
Bah, visuellement, c'est compliqué à...
Ouais. Bah, ouais, ouais.
À mettre en page. Et c'est surtout que bah là, tout ce qui est Game Boy jusqu'à la GBA, enfin les visuels GBA, qu'on peut, ouais, les captures qu'on peut trouver sont généralement très jolies. C'est du beau pixel art. Et, ouais, et le pixel art pour le print, c'est super. Alors oui, à chaque fois, j'ai cette réflexion-là. Que bien sûr, moi, quand j'utilise des visuels en pixel art, donc les pixels sont très nets et c'est pas le rendu qu'on a sur un écran quand on joue. Mais dans un magazine, c'est quand même beaucoup plus agréable et,
oui,
pour moi, joli à illustrer avec du beau pixel art imprimé en grand.
Oui.
Quand on arrive justement à la DS, c'est l'époque bah, là où, pour le coup, c'est plus du pixel art, c'est la 3D, mais de la 3D minuscule. Et c'est très, très vite dégueu pour les vieux jeux. Et c'est vrai que rien que ça, moi, ça me...
Ça t'angoisse.
Ça m'angoisse un peu, ouais.
Pour la Game Boy aussi, on a... Enfin, je dis « on », mais c'est toi, mais... T'as choisi parfois de mettre des jeux vraiment en noir et blanc,
ouais,
ou en gardant le côté sépia de la machine, quoi.
Et ouais, bah alors ça dépend. C'est des questions que je me suis posées un peu au cas par cas, puisque la plupart des captures que j'utilise, ouais, c'est vraiment du noir et blanc, vraiment. Ou en plus, moi, je fais de la correction sur les images et toutes les captures, je passe le blanc en blanc, vraiment blanc 0% avec aucune couleur. Parce que je trouve qu'en print, ça rend bien, et ça rend un bel hommage au sprite de l'époque. Et ça, par contre, je suis tout à fait consciente que oui, ça s'éloigne du rendu qu'on avait sur la console, avec son absence totale de rétroéclairage et son fond vert dégueulasse. Et ça, c'est vrai que ce côté un peu vert, je l'ai gardé sur quelques visuels. Puis après, ça dépend aussi beaucoup des visuels qui sont à notre disposition. Mmh. Mais oui, la question dans ce cas-là, quand on fait un peu du rétro gaming, c'est toujours compliqué de se dire, bon, est-ce que j'essaye de rester fidèle à ce à quoi ça ressemblait,
ouais,
auquel cas on se retrouve avec des captures minuscules et floues, ou alors est-ce que j'essaye quand même de faire quelque chose de joli, et c'est plutôt le parti pris que j'ai choisi, oui.
Oui, oui. Bon, pour ce numéro-là, et puis de manière générale.
Et puis en général, ouais.
Même, oui, quand on a parlé de genre de jeux PS2 qui ont derrière eu des remasters de...
Oui, il voilà, y a ça aussi.
On peut se permettre de mettre la version remaster, même si c'est pas l'authentique rendu de l'époque, quoi.
Quand il y a des remasters, généralement, voilà, je me sers des remasters pour faire des images en grand, des images d'ouverture, des trucs un peu jolis, et je m'arrange toujours pour mettre le jeu d'origine, mais alors du coup, en petit, en vignette, quoi.
Pour le shame, un peu.
Pour le... Bouh, il est moche, regardez. Non, 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 mais oui, c'est... De toute façon, à partir du moment où tu imprimes quelque chose qui est vu sur un écran, t'es déjà plus dans le... Enfin, t'es forcément dans une adaptation.
Oui, tu retrouveras jamais
Voilà, tu retrouveras jamais le vrai rendu.
Très bien.
Petit point technique.
Mais
voilà.
Oui.
Et du coup, ce hors-série, comme tout nos hors-séries, il est divisé en deux grandes parties, plus à la fin nos souvenirs. Donc on a commencé par la partie console, tech en elle-même, enfin la machine, et ensuite la partie sur les jeux.
Mm-hmm.
Tous nos hors-séries sont faits comme ça, et oui, l'aviez-vous remarqué. Tu veux commencer par quoi, Kevin? C'est toi qui as fait le premier papier introductif,
ouais,
où tu parles de Gunpei Yokoi.
C'est ça. Bon, alors, c'est vrai qu'on a aussi l'habitude de commencer par l'histoire de la machine. Le problème qui se posait ici, c'est que Parler de l'histoire de la machine revenait à parler aussi de Nintendo, chose qu'on avait déjà pu faire dans des hors-séries NES ou Super NES ou Nintendo 64. Donc, on était un peu au confluent de tout ça et ça pouvait se télescoper. Donc, on a pris un petit pas de côté et on s'est dit qu'on allait, plutôt que de raconter vraiment l'histoire de la Game Boy en elle-même, on allait plutôt parler de l'histoire de son concepteur principal, à savoir Gunpei Yokoi. Qu'on avait déjà cité maintes et maintes fois dans le jeu, mais dont on n'avait jamais vraiment fait la biographie. Donc à travers lui, à travers ses travaux, à travers sa philosophie, c'est aussi celle de Nintendo qu'on peut voir, et c'est forcément l'histoire de la Game Boy est vraiment parallèle à celle de cet homme-là. Donc voilà, on commence par une petite biographie de 4 pages, qui permet aussi de couper un peu, on va dire, l'histoire. Parce que ce qui était compliqué aussi, c'est qu'on n'avait pas que l'histoire de la Game Boy, on avait l'histoire des Game Boy. Mmh. Et donc, on a cette première partie qui permet donc de parler de la première Game Boy à travers son créateur. Ce qui nous amène à une seconde partie qui est sur l'après Yokoi, parce que faut savoir qu'il est décédé en 1917, et ou 97, je sais plus. Et nous, on allait parler jusqu'à la fin de production de la GBA, donc en 2004 ou 2005. Donc il y avait toute une partie à titre posthume pour lui. Et donc ça, c'est toi, Chris, qui a parlé de plus de la GBA et donc de l'après Yokoi, quoi.
Oui, là, j'étais moins dans la biographie, disons, et plus vraiment sur l'histoire du développement de la GBA, en passant donc avant par la Game Boy Color, et même si, malgré tout, il y a un nom qui ressort, c'est celui de Satoru Okada, donc qui est un membre de Nintendo Research and Development, qui avait aussi bossé sur la Game Boy, et qui prend un petit peu le relais de Gunpei Yokoi, et qui va s'amuser à faire pas mal de prototypes pour finalement arriver avec cette Game Boy Advance, quoi. Voilà, je raconte un peu tout ça.
Ouais, bon, après, on a aussi des passages obligés, plus ou moins, dans ces hors-séries. Donc, on aime bien aborder le design des consoles, la manière dont elles ont été pensées d'un point de vue architecturel purement visuel.
Là, en plus, pour une portable, c'est d'autant plus important, parce que une console que tu branches sur ta télé, à la rigueur...
Oui.
Là, il y a vraiment une notion d'ergonomie qui se rajoute en plus, et... Et c'est vrai que...
Il y a eu tellement de modèles différents.
C'est ça, il y a eu un... Et petite pensée émue pour les versions à coque transparente, si chères au début des années 2000.
Hideux.
T'aimes pas quand on voit les entrailles?
Non.
Non, mais c'était marrant, ça, cette mode qui est arrivée et qui est repartie aussi vite, tout d'un seul coup. Tout ce qui était high-tech, pas forcément que Nintendo, tout ce qui était high-tech et Apple et tout ça... Tout était translucide en couleur, waouh, génial, et hop, c'est reparti direct.
Et le design, c'est un passage obligé. La com aussi, on aime bien. Alors déjà parce qu'on aime bien aussi étaler des pubs d'époque un peu partout dans le magazine. Et puis parler du lancement de la Game Boy en France, c'était l'occasion de trancher pour de bon l'histoire de...
Le ou la Game Boy.
Voilà, le ou la Game Boy. Nous, de manière générale, on a toujours parlé des consoles au féminin.
Oui.
Ça a toujours été la Game Boy. Mais en tout cas, là en écrivant ça, je me suis un peu caché derrière Oscar Le Maire, qui en fait avait remarqué que pourquoi on avait dit le Game Boy à une époque, et pourquoi Nintendo lui-même en avait
ça, mis. Dans les pubs d'époque, c'était vous jouez où, la fameuse série, vous jouez où avec le vôtre.
Et donc Oscar Le Maire avait remarqué qu'en fait, il y avait eu un imbroglio à cause d'un article dans Tilt qui pensait sans doute à l'époque que la Game Boy, ou le Game Boy, comme il disait, allait être un nouveau Game & Watch. Et donc avait écrit...
Moi, je disais une Game & Watch.
En tout cas, pour eux, en fait... Non, mais pour eux, c'était un nouveau modèle, donc un nouveau jeu. En fait, ils pensaient vraiment que le Game Boy, c'était un jeu.
Un jeu,
c'était pas une console.
Voilà.
Et ben, parce que c'est vrai que ça existait déjà, enfin, on en parle, hein, ce qui était portable à l'époque, c'était ça existait déjà des jouets, enfin des jeux comme ça portables, mais c'était une machine, un jeu, quoi.
Voilà. Et donc voilà, la confusion vient sans doute de là, mais bon, en tout cas pour nous, c'est la Game Boy.
Je pense que maintenant, ça serait intéressant de savoir dans les autres pays francophones d'ailleurs, et dans les autres pays dont les langues sont genrées, genre, je sais pas, en Espagne, en Italie. Ouais. Dans les autres langues européennes et dans les langues... Alors après, les langues extra-européennes, j'y connais encore moins. Mais ça serait intéressant de savoir, est-ce qu'ils se posent ce genre de questions? Est-ce qu'ils s'en foutent? Est-ce que...
En tout cas, quoi qu'il en soit, l'explication, c'est le Game Boy parce que le boy... Ça, c'est là, elle n'a aucun sens.
Oui, par contre,
c'est sûr que si c'est ça votre argument, là, on ne va rien faire pour vous.
Ça,
on veut bien
ça.
Être sympa,
ça,
mais là, c'est foutu, quoi. Donc voilà la com.
Je me souviens, la parenthèse, avoir vu il y a très longtemps un téléfilm français pas très bon qui avait essayé de faire un truc un petit peu edgy, où c'est dans un monde où les rôles hommes-femmes étaient inversés. Ça se voulait un peu. Et justement, à un moment, t'as l'actrice principale qui dit à sa gamine, mais arrête de jouer avec ta Game Girl.
C'était subversif.
Tu vois, c'est ça, je sais pas, je viens de repenser à ça.
Si avec ton Game Girl.
Oh putain, et là ça...
Ah non, là c'est trop subversif, là ça va trop loin. Mais si, il faut que j'arrive à retrouver ça. De mémoire, c'était pas bon, et il y avait Agnès Sorel qui jouait dedans.
Okay.
Si vous savez ce que c'est, voilà, écrivez-moi une carte postale. Bref.
Autre passage obligé, les périphériques et accessoires.
Ah, génial. Là, c'est Arnaud qui s'y est collé.
Bon, ça, c'est toujours un peu une galerie des horreurs, hein, mais bon, c'est toujours rigolo quand même de voir certains trucs qui ont pu un peu... on va dire perdurer, et d'autres qui ont disparu aussi sec.
Moi, généralement, c'est les pages que je redoute le plus, parce que ça veut dire qu'il va falloir que je détoure des trucs avec des gueules pas possibles.
Des machines à coudre.
Et généralement, des images dégueulasses de qualité, grandes comme des timbres-poste, parce que justement, ça n'a pas trop perduré, et tu retrouves juste des images d'une vieille pub qui a été scannée. Et ça va, j'ai réussi à peu près m'en sortir. Mais oui, la machine à écrire, quand même, reliée au game. Au Game Boy, à la Game Boy.
Ah, on y vient.
Tu vois, je m'en mêle.
Et le Gluco Boy.
Le Gluco Boy. Ah, mais oui, c'est vrai.
Le Gluco Boy,
ça c'est ouf.
Ça c'est terrifiant.
Ça, c'est incroyable. On vous en dit pas plus, mais retenez juste le nom Gluco Boy.
Gluco Boy. Il y a un indice dans le nom, quand même.
Ouais. Bon, les jaquettes aussi. Donc là, pareil, on avait plusieurs... consoles, donc plusieurs générations et donc types de jaquettes à représenter, mais c'est toujours un exercice quand même assez rigolo. Et puis, là, comme on avait aussi une grande période, on voit aussi l'évolution, une grande période temporelle, donc on voit aussi l'évolution avec des choses très minimalistes et très enfantines pour des jeux Mario, au packshot incroyable des Castlevania, par exemple, qui sont vraiment...
Ce qui est rigolo aussi, c'est de comparer les versions européennes,
bien sûr,
américaines et japonaises. Et oui, le fait qu'en Europe on casait du Mario, tu vois, genre dans le jeu Golf ou dans Alleyway ou des jeux comme ça, ou dans les versions européennes, il y avait Mario sur la jaquette alors que le mec n'est pas là, clairement pas dans le jeu. C'est toujours rigolo de comparer ça.
Comme les films avec Steven Seagal. Il est toujours sur la jaquette, mais en fait il a qu'une scène. Hein, mais là, il ne fait rien dans une pièce.
Là, il avait même pas de scène, Mario. Encore plus fort que Steven Seagal. Oh, le Cable Link, j'ai tourné une page et je suis tombé sur une capture dégueulasse d'une pub. Ah oui, ce qu'il y a ça aussi.
Ah oui, ouais, oula.
Là, je vous avoue, la capture de la pub retrouvée sur YouTube, c'est pas la plus belle image du magazine, mais c'était quand même assez rigolo. Ça suffisait pour être montré. Mais comment, dès le départ, Nintendo a voulu... Enfin, dès le départ... C'est surtout Pokémon, pour comment relier deux consoles et jouer en multi sur les consoles portables.
Mais oui.
Toute une aventure.
On enchaîne avec donc Marion Bariaki qui nous a fait un... Donc, là, on arrive sur des papiers un peu plus thématiques et un peu plus spécifiques à notre sujet. C'est qu'on a voulu parler de la Game Boy aujourd'hui. Parce qu'il se trouve que sur GBA ou sur, même sur des plus vieilles Game Boy, il y a encore des créateurs qui qui essaient et qui sortent des jeux. Voilà, on a voulu faire un petit reportage documentaire comme ça sur ces créateurs qui encore, en 2024, vont essayer de faire des jeux sur Game Boy.
Et d'ailleurs, avec Bubu, on a streamé Dijon Game Boy.
C'est vrai.
Si vous allez sur notre chaîne Twitch,
c'est vrai.
On a joué à Dijon Game Boy.
C'était super.
Un jeu pour découvrir la ville de Dijon. Et oui, ça tourne sur Game Boy. C'est incroyable.
Et voilà, c'est un peu le papier pour conclure cette première partie, même si, bon, comme d'hab, on a la conclusion avec ce qu'on appelle la transition vers la suite.
Ouais.
Là où je parle un peu de la fin de la production de la GBA et comment, en fait, la DS a aussi fonctionné et cartonné grâce, en fait, au catalogue rétro.
À la rétrocompatibilité.
Rétrocompatibilité. Ouais. Pirate, hein, la plupart du temps, via les linkers, quoi. Et ouais, que le succès de la GBA est aussi dû, en fait, rétrospectivement, au fait qu'on pouvait y jouer sur DS via des linkers. Qu'il y a beaucoup de jeux, en fait, auxquels on a joué après coup.
Mais il n'y avait pas un lecteur de cartouche GBA dans la DS, dans la vieille DS, la toute première DS?
Je ne sais plus, là, je fais les confonds.
C'est celle qu'on appelle la FAT maintenant. Il me semblait que tu avais un cache en dessous et que tu pouvais mettre, pas les Game Boy, hein, mais les cartouches GBA, celles qui étaient plus petites. Tu pouvais les mettre dans la DS, il me semble.
Aussi.
Ah ouais, si.
J'ai
si,
pas
hein.
eu la toute première DS alors.
Si, moi je l'ai eu. Ouais.
Mais oui, sans doute. Hein.
Mais je pense que c'est. Après, maintenant, c'est devenu la norme qu'une nouvelle console soit compatible avec au moins celle d'avant. Mais à cette époque-là, ce n'était pas du tout le cas. Surtout les jeux cartouches, quoi.
Ouais, oui, pour les jeux cartouches.
Non, mais regarde.
Sur les consoles de Nintendo, en tout cas, oui, c'était pas faisable.
Ouais.
Même si, du coup, ils sortaient des adaptateurs pour pouvoir jouer, par exemple, ouais, aux jeux Game Boy ou machin, mais oui, ça se faisait pas forcément, ouais.
En tout cas, bravo, hein, Nintendo, parce que mine de rien, ils en ont vendu aussi 2-3 DS. Ça, c'est plutôt bien vendu. Et du coup, on attaque la partie qu'on appelle, nous, autour des jeux, où là, on va s'intéresser aux jeux. Et on commence évidemment par l'incontournable Tetris, vendu par Tetra Palette.
Même encore maintenant, je pense qu'ils continuent d'en vendre des caisses à travers différentes versions de jeux, quoi.
Et du coup, là, c'est toi, Christophe,
qui est
retombé dedans.
Ouais, pas facile de parler de Tetris en 2024 parce que...
Tout a déjà été dit.
Ouais, voilà, j'avais l'impression que j'allais répéter les mêmes choses. Donc, j'ai essayé d'être... Dans une première partie, surtout m'intéresser au jeu et qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, ça marche, quoi, Tetris. Donc, c'est peut-être un papier un peu plus personnel, disons, en tout cas, où je mets vraiment mon ressenti de ce qu'est le jeu. Et puis... Et puis ensuite, montrer en quoi Tetris, il a vraiment bouleversé toute l'industrie du jeu et surtout notre manière de consommer le jeu, ouais, d'amener avec lui de nouveaux joueurs qui ont découvert le jeu vidéo grâce à Tetris, quoi. Et amener même un peu ce qu'on a appelé ensuite le casual gaming et tout ça.
Voir le jeu mobile, en fait. Entre le jeu portable et le jeu mobile, en fait, Tetris, c'est un
peu... complètement. Ouais.
Très guignon.
Et voilà, quoi. Donc, vous ne retrouverez pas forcément l'histoire de Tetris qui a été maintes et maintes fois racontée, même si je la synthétise en une ou deux lignes, quoi. L'aura de ce jeu temporel.
Mais oui, ça marche toujours.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc, dans cette partie-là, on aime bien aborder toujours, comme l'a fait Bubu là, toujours en deux parties. Donc il y a une partie souvent plus centrée sur le jeu, et derrière on ouvre sur une thématique un peu, on va dire... corollaire au jeu. Et c'est le cas par exemple pour le jeu suivant, donc on a choisi ensuite Link's Awakening. Et donc là, c'est Arnaud qui fait l'analyse du jeu en tant que tel, mais on a souvent parlé de jeux Zelda dans Noir Série, et pour
pour trouver un article qui va avec, c'est plus compliqué parce qu'on a déjà fait Aonuma, on a déjà fait des choses comme ça. Là, en fait, on avait juste envie de parler de musique. Et du coup, on a fait appel à Mickaël Garnet, qui est Motor Mike, pour ceux qui étaient sur GameCube, sur GameCult, et qui nous fait un super papier justement sur la musique, la musique de Link's Awakening, et qui déborde sur la musique sur Game Boy de manière plus générale, avec pas mal d'intervenants prestigieux. Donc c'est un super papier qui permet de comprendre un peu comment ça marche, comment ça marchait et comment ça marche encore de faire des musiques sur Game Boy.
Oui, c'est vrai que maintenant, avec la mode de la musique chiptune, il y a plein de gens qui servent de la Game Boy comme instrument de musique.
Ouais. Ensuite, toujours sur ce même modèle, Pokémon, hein, bah,
incontournable.
Fallait bien y aller. Alors moi, j'avais dit non parce que on avait déjà fait un magazine. Je voulais pas reparler de Pokémon. J'ai laissé Arnaud faire ça mieux que moi. Il part du Pokémon rouge et bleu pour commencer, avant de parler plus de Pokémon, du raz-de-marée transmédia que ça représentait. Donc on parle forcément du dessin animé, des produits dérivés.
Les cartes, évidemment.
Des cartes, des spin-offs assez improbables, le pinball.
C'est vrai qu'il y a eu une époque où il y avait n'importe quoi pinball. Dès qu'un truc marchait, il faut qu'on se lance un jeu vidéo pinball, nous. Pourquoi ça n'existe pas?
Il y a un truc qui est marrant avec le dessin animé Pokémon, c'est à quel point, en fait, au fil des reboots et des saisons qui sont plus ou moins des reboots, c'est comme Rocky, c'est-à-dire que Sacha, il va de plus en plus loin, il est meilleur au fil des saisons, en fait. Première saison, il perd genre au premier tour du grand tournoi, et de là, dans les dernières saisons, il est devenu champion du monde.
Il est devenu maître Pokémon.
Ouais, mais genre. Out of nowhere, quoi. Il avait commencé, il avait eu son premier Pokémon limite 3 jours avant, quoi.
Ah oui, parce qu'à chaque fois, c'est pas des suites, c'est oui, comme tu dis, ça recommence.
Bon, voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de raconter ça.
Mais oui, non, mais c'est intéressant. Écoute, moi, j'ai jamais trop suivi toutes ces histoires-là.
Ensuite, on a Mario et Luigi Superstar Saga.
C'est un de mes jeux préférés.
Un premier papier d'Arnaud pour parler du RPG, enfin de ce RPG en tant que tel, et moi qui m'a donné un prétexte pour parler en fait des secondes parties. C'est quelque chose dont on parle pas souvent, on entend souvent parler de studio third party ou third party,
ouais.
First ou third. First va être des studios qui vont être complètement inféodés à un éditeur, ouais. Ou un constructeur. Pas moi, Naughty Dog pour. Les Sony, enfin tous les studios de Sony, machin. Third, ça va être des studios tiers qui vont juste signer un engagement unique autour d'un projet avec un éditeur ou un constructeur. Et là, Nintendo, en fait, ils ont une politique un peu d'entre-deux avec des studios qui ne bossent quasiment que pour eux. Qui ont quand même une part d'indépendance, mais je pense qu'ils ne peuvent pas non plus faire les mercenaires et aller soumettre leurs projets à n'importe qui. Donc voilà, on en présente plusieurs, dont le principal, c'est Game Freak, ceux qui font donc Pokémon. Qui eux, ils sont vraiment entre les deux, parce que maintenant, en plus, Game Freak fait complètement partie de l'écosystème Nintendo. Ils partagent des bureaux avec la R&D.
Oui, ils sont limite en train de devenir first party.
Mais il y en a d'autres. Alpha Dream, donc le studio qui faisait les Mario Luigi.
Parce qu'il a fermé.
Il a fermé.
C'était en 2023, 2000, je ne sais plus.
Ouais, c'est assez récent, effectivement. Oui, je vais pas relire mon article.
Bah non, mais c'est ça.
2019.
2019, ah, oui, c'est plus, un peu plus vieux que ça.
Oui, parce que là, en fait, on sait, nous, qu'il y a un nouveau Mario
c'est ça,
Luigi.
Y a un nouveau, c'est pour ça que ça avait été étonnant qu'un nouveau Mario Luigi soit annoncé, parce qu'on savait que le studio qui s'en occupait avait fermé. Et donc, encore aujourd'hui, Nintendo a toujours pas annoncé qui
c'est ça.
A fait ce Mario Luigi.
Et c'est ça qui est intéressant. Quand je dis intéressant, c'est d'un point de vue, on va dire, pour le narratif de la chose. Mais c'est triste, c'est que ces studios-là, en fait, sont pas très bien considérés parce qu'ils sont pas du tout mis en avant. Et effectivement, quand ils ferment, c'est
n'y a pas de cérémonie. C'est vraiment très, très... Nintendo est assez...
Donc là, oui, c'est vrai que la question se pose, c'est est-ce que Nintendo a quand même dit que sur le nouveau Mario Luigi, il y avait des gens de l'équipe d'origine. Donc, est-ce qu'ils ont juste rembauché les gars en interne et que maintenant, il y a un petit studio first party qui est en train de se développer? Ou est-ce qu'ils ont remonté un autre studio qui sera tout aussi maltraité que celui d'avant? Justement, il n'y a aucune communication là-dessus.
On sait qu'il y en a quelques-uns, mais on ne sait pas si c'est genre 3 ou 12 ou... bref.
Ou tout le monde.
Je voulais parler un peu de tous ces studios-là dont on connaît pas, on connaît vaguement le nom quand on s'intéresse vraiment aux jeux vidéo, mais qui sont pas très bien considérés.
Al Laboratory, par exemple, pour les Kirby, qui est peut-être un des plus connus.
Aussi, ouais.
Mais qui arrive toujours à caser. Dans tous les jeux Kirby, tu as toujours un passage secret, une salle secrète où il y a le mot Al qui est écrit quelque part. Donc les mecs essayent de dire regardez, c'est nous, on existe, bonjour, on n'est pas Nintendo. Donc c'est vrai que c'est pas une position qui doit être très confortable.
C'est ça. Pour continuer dans les RPG, ensuite, on parle des Golden Sun. Donc Arnaud, qui revient sur... c'est pas grave. Petite boulette.
Oh, j'adore découvrir des trucs comme ça en direct. Je vous dirai pas ce que j'ai vu.
Si. Alors, vas-y, Sophie, explique-toi.
Sur la page 63, en bas, il manque une jaquette. Il y a le bloc, mais il est vide. Je sais pas pourquoi. Il devait y avoir la jaquette premier Golden Sun.
Il y avait les deux jeux, ouais. Il n'y a que le deuxième.
Eh bien...
C'est moins 100 euros sur le salaire, ça.
Ah non, moi j'allais dire, entame la marche jusqu'à chez toi. On va prendre nos cloches.
Shame! Oh merde! Je vais pleurer, vas-y, continue.
Mais non, mais c'est drôle, moi j'aime bien. En fait, si j'aime bien aussi cette émission, c'est pour ça. C'est vraiment. On dit tout et en fait, on redécouvre des trucs en direct, quoi.
Imaginez-vous, je vais vous la dessiner. Écoutez, il y a la jaquette de Golden Sun sur GBA.
Oh, faites-le vous-même. Je
me souviens pas qu'elle était grise comme ça.
Rose.
C'est rose, là.
Ah oui,
il est protane, je sais pas quoi, là.
C'est rose, hein, c'est complètement rose. Golden Sun, donc. Formidable jeu qui n'a jamais eu de jaquette, figure-toi.
je pensais qu'il y en avait une. Mais...
Et derrière, par contre, on a...
Ah mais c'est sûr que moi, quand je fais une connerie, ça se voit tout de suite. Vous, faut lire. Bon, ben voilà.
On n'en fait jamais.
Non, ça n'arrive jamais.
Derrière, on embraye avec un article assez intéressant. Je me rappelle quand on avait fait un peu la réunion de la conférence de rédac. Ouais. On s'était posé cette question-là et que Arnaud, derrière, s'est donc pressé de prendre comme ça à bras-le-corps et d'y trouver des réponses. On se demandait si c'était possible de raconter des histoires sur console portable, en fait. Mm-hmm. Ça peut sembler un peu cavalier comme question, mais c'était à mon sens légitime, puisqu'on part du principe que console portable, c'est fait peut-être pour des plus petites sessions, comme ça, du jeu de manière un peu parcellaire, pour picorer ici et là. Et est-ce que c'est vraiment possible de faire un RPG de 30-40 heures qui est sur portable? Et donc voilà, c'est une question à laquelle il s'est posé, il s'est théorisé autour de ça. Et donc voilà, c'est un super papier, je trouve, qui tente de répondre à cette question. Bon, je reprends parce que Sophie est toujours dans le déni et le choc.
Non, mais pas du tout. On va parler de Castlevania.
Voilà. Bah, vas-y, Bubu, tiens.
Castlevania, c'est le premier papier où...
Là, il n'y a même pas de jaquette. Hein.
Alors, il n'y a rien.
Mais non, mais parce que c'est pas la même. Merde.
Ah, c'est de pire en pire. Non, bah là, du coup, ouais, en effet, c'est le premier papier où on ne part pas d'un jeu en particulier. Parce que là, bon, comme il y en avait plusieurs... on ne se voyait pas en choisir un plus qu'un autre. Et puis comme le papier d'après, c'était vraiment de raconter comment la série avait évolué sur les différentes Game Boy. Du coup, le papier allait parler un peu de tous les jeux. Donc, faire un focus sur un en plus, ça aurait été sans doute un peu redondant et pas très pertinent. Donc, je me suis amusé à revoir un peu tous les Castlevania. D'abord sur Game Boy, et puis ensuite sur GBA, parce que la Game Boy Color n'a pas eu le droit
tout cas un épisode exclusif, quoi. Et pour voir que le chemin parcouru a été... on est parti de très bas, donc oui. Les premiers Castlevania sur Game Boy sont pas légendaires.
Bah, c'est vraiment la GBA qui a ressuscité la licence, quoi.
Oui, voilà, complètement. Ouais. Bah, la série est vraiment restée dessus quasiment pendant 3-4 ans, je pense. Il y a quasiment un épisode par an. Et en partant un peu de Symphony of the Night, donc sur PlayStation, qui fait réexploser la série, qui lui donne son terme de Metroidvania, et ces épisodes partent un peu de cet épisode-là pour continuer à creuser sur ce terrain-là, et puis ensuite la DS prendra le relais, pardon.
Le relais, tout à fait.
Mais c'est une série que j'aime beaucoup et que qui a vraiment compté, je trouve, sur Game Boy, quoi.
Moi, ça fait partie des plus beaux visuels que j'ai pu mettre dans le magazine.
Ouais, je pense que c'est peut-être les plus beaux jeux de la console.
GBA, enfin, ouais.
Pas loin.
Oui, on enchaîne avec un jeu qui a une jaquette, c'est Advance Wars, et c'est Marion qui nous en parle. Comment faire un jeu de stratégie sur GBA?
Ah oui, c'est une bonne question. Mais Advance Wars, forcément, fallait en parler. Et pour accompagner donc le papier sur le jeu en tant que tel, moi, je me suis intéressé au lore, en fait. Parce que, pour le coup, c'est quelque chose... Je ne suis pas trop familier avec la série. Et en fait, je me suis rendu compte que Advance Wars, qui est devenu un nom en tant que tel... Enfin voilà, qui pourrait même encore exister, enfin qui existe d'ailleurs sur d'autres consoles désormais.
Que la Game Boy Advance.
Alors qu'en fait, à la base, il s'appelait Advance Wars parce qu'il était sur GBA et qu'avant, il y avait eu des Famicom Wars.
Exactement.
Game Boy Wars.
Voilà, Game Boy Wars. Et que en fait, donc la licence Wars existait depuis un moment. Et donc voilà, je me suis intéressé à ce lore parce que j'aime bien un peu ce genre d'exercice. Et de voir comment c'est encore une vision très comment dire la géopolitique telle qu'elle est on va dire caricaturée dans le jeu à deux trois on va dire très curieux qui vont parfois très loin dans des choses qui pourraient choquer on va dire en Occident, des blagues représentation d'Hitler, je crois que c'est Hitler, hein, je crois que ça s'appelle. Et puis la manière dont il renverse les codes, c'est-à-dire que les rouges sont en fait plus le bloc américain, alors que donc les caricatures soviétiques, ce sont plus les bleus. Et comment derrière, après, ils vont intégrer d'autres nations jusqu'à finalement tout le monde se réunisse pour péter la gueule à des extraterrestres.
C'est la meilleure solution.
C'est un lore qui m'a, enfin voilà, que je me suis amusé un peu à résumer, à décrire.
Christophe, ensuite, toi, tu t'es intéressé au remake, enfin au portage quand des grandes séries doivent porter leur jeu sur une console qui est moins puissante.
Ouais.
Donc, est-ce qu'on peut qualifier ça de demake, par exemple?
En tout cas, je crois que le terme n'existait pas à l'époque, mais quand on voit le Tomb Raider sur Game Boy Advance, je pense qu'on est complètement dans ce... aujourd'hui, ce qu'on voit actuellement, le principe est complètement le même, quoi. Et donc, je suis parti un peu de... en effet, d'abord, de quelle manière les licences connues de Nintendo ou des éditeurs... soit Ubisoft ou autre, ou Capcom, comment ils ont réussi, avec plus ou moins de réussite, à mettre leur licence sur Game Boy. Et puis, avec l'arrivée de la PlayStation, du coup, là, c'est posé vraiment la question de comment transformer des jeux en 3D, en 2D, en fait. Et du coup, de quelle manière on modifie soit le genre du jeu, soit le gameplay, des choses comme ça. Et on se rend compte que... Parfois, c'est un peu hasardeux, mais souvent, c'est plutôt réussi, quoi.
Comment tu joues à Street Fighter 2 avec deux boutons?
J'en parle pas mal. C'est un peu compliqué. Il y a des moments où tu sens que ils l'ont mis juste sur Game Boy parce que ça faisait vendre, mais mais ils ont été vite dans une impasse, quoi.
Ouais, ça on en revient plus spécifiquement quelques pages plus loin, d'ailleurs, sur les jeux de baston, en fait, ouais. sur Game Boy, et de, justement de cette difficulté par l'absence de... Enfin, le manque de boutons différents. Un article de Corentin Payassard, qui parle ouais, voilà, donc de Mortal Kombat, de Tekken ou de jeux DBZ. J'accélère un tout petit peu parce que sinon on va dépasser
c'est
l'heure.
C'est vrai,
donc,
mais
on
parle aussi de Metroid. Ouais, c'est, on parle de tout, c'est quand même important.
On parle
de Megaman.
Ouais, non, Metroid, donc trois épisodes et trois super épisodes d'ailleurs. Megaman, évidemment, ça c'est Jules.
C'est un Wario.
Oui. Monsieur amusé à raconter l'histoire de Wario, parce que pour moi, c'est plus que Mario ou qu'un autre, c'est lui le vrai, la vraie mascotte de la Game Boy. Ouais, c'est, genre, bon, c'est moi qui l'ai décidé. Hein,
oui, je vois bien. Ouais.
si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Mais disons que, en tout cas, c'est sur les portables qu'il s'est épanoui, le personnage.
Et qu'il est né même.
Oui, enfin, à la base, oui, mais en tout cas, enfin, il a essayé de. Il y a eu des jeux sur console de salon ou Wario, mais où il avait soit un second rôle, soit où il était pas forcément, enfin, où les jeux n'étaient pas forcément extraordinaires. Ouais. Alors que voilà, avec les Wario Land puis les WarioWare, c'est vraiment sur console portable qu'il se sent le mieux. Et puis j'essaye de dans ce papier de. Bah, d'expliquer qui il est, en fait, parce que c'est pas clair, même Nintendo, on sait pas, hein. Est-ce que c'est le frère de Mario, est-ce que
c'est un cousin,
est-ce que c'est... Alors la théorie la plus vraisemblable, c'est qu'en fait, c'est son rival de toujours, en fait, ouais. Ils ont grandi un peu, bah, ils ont...
Dès la maternelle.
Voilà, le même cursus, et ouais. Ils se sont jamais trop piffés, quoi. Voilà. Et en fait, ouais, que Wario a toujours été jaloux de Mario.
Ouais, bah écoute...
Tragique.
Il y a de la place pour tout le monde.
Mais oui. Pourquoi ils se ressemblent, par contre, toi
c'est peut-être dans un patelin où tout le monde a cette tête-là, j'en sais rien. Moi.
Bah, sachant qu'ils avaient. Il faut se rappeler que tout. En plus, ils avaient la moustache bébé, tous. c'est vraiment un patelin où. Bah, écoute, c'est bizarre.
Ouais, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans l'eau, mais. Ensuite, oui, on a une partie. Donc là on vient de voir un peu tous les papiers où on pouvait aborder des thématiques. S'ensuit ensuite toute une longue partie où on va juste faire des critiques de jeu. Mm-hmm. Là, on va retrouver... On les a toujours, comme d'habitude, classés en trois catégories. Les classiques, les jeux qui comptent et les curiosités. Alors, évidemment, on a du Super Mario Land 2, du Mystic Quest, du Mario Kart. Qu'avons-nous d'autre ? Fire Emblem, Mother 3. Donc voilà, là, on va se contenter peut-être juste de les name-dropper comme ça. Ouais. Le premier Kirby.
Vérifie s'il y a les jaquettes.
Regarde s'il y a les jaquettes. On va gueuler auprès de l'imprimeur, c'est pas possible. Les Zelda Oracle, quand même. Oracle of Ages, Oracle of Seasons. On a du Gargoyle Quest, Sword of Mana. Moi, ce que je trouve rigolo quand on fait ça à chaque fois, c'est plutôt d'aller voir dans les curiosités. À un moment, dans certains hors-série, on a même eu des infamies.
Ouais.
Là, on n'en a pas.
Non,
il
n'y
a pas d'infamie.
Non.
Mais il y a des petites curiosités quand même. Ben, le WarioWare, par exemple, là, c'est Jules qui revient un peu dessus. Mm-hmm. C'est vrai que c'est quand même un jeu qui ressemblait à rien d'autre.
Ah oui, puis toujours, hein, c'est toujours le cas.
Il y en a de noms dont vous avez envie un peu de. Sur lesquels vous avez un peu envie de revenir
On parle de Phoenix Wright parce que voilà, c'est quand même
c'est le tout premier.
Le tout premier. Sonic Advance, première fois que Sonic apparaissait
sur une console Nintendo.
Voilà, mais aussi des jeux, on va dire plus confidentiels. Je sais pas moi. Cave Noir, ça c'est intéressant par exemple. Moi c'est un jeu là que j'ai découvert en fait qui est vraiment un roguelike, en fait. Un roguelike qui est sorti donc en 91 au Japon. Enfin, qui a tous les codes de ce qu'on appelle un roguelike aujourd'hui. C'était absolument pas aussi évident et mainstream d'en faire à l'époque. Donc, c'est Konami qui, à l'époque, avait beaucoup, beaucoup d'originalité dans ses concepts. Et voilà, c'est vraiment tout ce qu'on peut imaginer d'un roguelike aujourd'hui. C'était dans un... T'es dans un village, on te dit qu'il y a des trésors à aller chercher et tu t'enfonces de plus en plus. Et quand tu meurs, tu conserves l'expérience. Voilà, un petit jeu très cool qui est jamais qui n'est jamais sorti du Japon, mais qui a, en import, eu tellement de succès que, qu'il y a eu une fan trad qui est sortie, mais genre, il n'y a pas si longtemps, quoi, genre, en 2012. Donc, genre, c'est un... En fait, c'est une sorte de jeu... de jeux cultes comme ça, sur, notamment en Amérique du Nord, Cave Noir. Voilà, un petit jeu. Voilà, ce genre de jeu dont on parle. Voilà.
Eh bien, on a fait quand même bien le tour de tout.
Oui.
C'est quoi, c'est 15 ans 15 ans de Game Boy.
C'est ça, bah, on dit juste pour les souvenirs, donc.
On a voilà, plus que d'habitude, non?
Les souvenirs.
On participait donc toi, Christophe, Arnaud, moi, Marion, Jules et deux invités mystères qui sont Jean-Clébert Loret et Corentin Lamy.
Vraiment, quel mystère.
Toujours les mêmes invités.
Toujours mystères. Les mêmes. Hein. Ça serait bien qu'ils se trouvent un taf parce qu'ils s'ennuient beaucoup ces deux hommes-là.
Ils sont mais toujours. Ils sont mégalos quoi. Ils veulent toujours parler d'eux. machin,
mais oui, évidemment qu'on les remercie. Évidemment.
Moi, j'adore la petite page de crédit à chaque fois.
Hein, ah oui, je voulais juste terminer sur les souvenirs. Généralement, je les maquette tout en à la fin aussi du mag, parce que ça va. La plupart des gens vont parler de jeux dont on a forcément déjà beaucoup parlé dans le magazine. Et moi, c'est le moment d'inquiétude où je me dis, il faut pas que je mette une image qui a déjà été mise ailleurs. Donc,
c'est
déjà,
pour ça que
des fois, j'en mets pas.
Voilà, c'est pour ça que
allez,
des fois, t'en mets pas.
Super.
C'est super.
Mais c'est
on ne trouvera pas la jaquette deux fois de Cole Johnson.
Peut-être ailleurs, on ne sait pas. Mais ouais. Il y a la notice. Voilà, il y a la notice de Golden Sun, si vous voulez. Mais il n'y a pas la jaquette, mais il y a la notice. J'avais peur que ce soit redondant, tu comprends. Non, mais voilà, il y a toujours ce moment où c'est pas rare que je doive revenir dessus et devoir changer des images. Mais oui, tu disais, Kevin, toi, t'aimes bien la petite page de fin de crédit.
J'aime bien. Je trouve ça toujours... Bah, c'est rigolo, parce qu'on essaie toujours de s'adapter à un peu au sujet. Et puis, voilà. C'est l'occasion aussi de remercier Élise. Hein, on l'oublie
mais
peut-être
oui,
de le faire, mais
Élise,
voilà. Élise qui corrige nos bêtises. Bon, pas toutes, hein, en l'occurrence. celle-là lui a échappé. Et puis, Grutre l'a fait. Donc, voilà. Voilà. Je crois qu'on a cité tout le monde.
L'équipe, mais oui. Et à chaque fois, j'essaye de faire une page qui reprend un vrai générique de fin d'un des jeux dont on parle. Et là, c'est le Mario Land 2,
ouais,
je crois.
Super Mario Land 2, ouais, celle-là.
Eh bien, il est fini ce hors-série Game Boy. Il est très bien, à part une image de la page.
Oui, bon, on va vite terminer cette émission et convoquer un comité.
Est-ce que sur le PDF, tu rajouteras la jaquette?
Bon, tricheuse, quoi.
Tricheuse.
T'inquiète que si vous faites des fautes, je les corrige aussi. Hein.
Ouais, mais il n'y en a pas.
Tu sais pas. T'as relu?
Moi, j'ai fait plein de fautes dans le 109.
Ouais.
C'est terrible.
Ouais,
il faudra les corriger.
C'est d'ailleurs, il faudrait que je les corrige et que je remplace le PDF. Oui. Donc, si vous avez acheté le PDF, il faudra peut-être le retélécharger. Bref,
je fais des cauchemars de mes erreurs depuis un mois.
C'est moi d'habitude qui fais ça.
Mais oui, mais celles-là, elles sont nulles.
Ouais.
En plus, elles sont soit. Il y en a une qui est vraiment débile, où tout le monde va dire tu t'es trompé. Ouais. Et l'autre, en fait, on peut ne pas la voir, mais en fait, ma phrase n'a aucun sens en l'état. En fait, parce qu'elle contredit tout le reste de l'article. Bon, bref.
C'est chiant de faire du papier, on peut pas faire de mise à jour.
Putain.
Les gens lisent pas, de toute façon.
Ouais,
en fait,
vrai,
on devrait laisser Christophe tout faire. Parce que lui, il fait comme
regarde,
il
fait jamais d'erreur.
Donc. Si, mais Élise corrige tout.
Ouais. Élise ne m'aime pas, elle corrige pas mes erreurs.
Tes erreurs, écoutez, nous allons nous arrêter là.
Oui.
C'est quand même un beau hors-série, à part.
Ah oui.
On est quand même content.
Oui, il y a une page faisandée, mais...
Non, putain. Non, mais regarde, si tu tiens le Mac comme ça, avec ton pouce là en bas...
Ah, c'est ça, en fait, c'est pour prendre les empreintes digitales des gens. T'as laissé l'espace.
Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas vu à la relecture, j'avais mon pouce devant. Ça doit être ça.
Je vois que ça, maintenant.
Ah
je
là
vois
là.
Une page, c'est ça.
Bon, arrêtons-nous là, et je vais aller m'enfermer dans la plus haute tour. Oh, putain, mais arrêtez.
Incroyable.
Je vais aller m'enfermer dans la plus haute tour du plus haut donjon et je vais pleurer, qu'est-ce que tu veux. Et peut-être qu'on se retrouve le mois prochain, écoute, hein, sinon j'aurais peut-être fait mon deuil.
Oui.
Et puis on va attaquer le numéro 110.
On aura trouvé ta remplaçante.
Mais bah écoutez, voilà, envoyez vos CV, rédaction, j'y vais le matin.
Et bisous.
Au revoir.
Ciao.
Salut.